Place publique. Il y a un an, le peuple suisse rejetait massivement l'initiative Nobilag qui visait à supprimer la redevance radio-TV, de quoi éviter un tsunami dans le paysage audiovisuel national. Mais pas de statu quo pour autant, cette votation a laissé des traces et ouvert de nouvelles perspectives. On vous propose ce soir de consacrer une large part de notre émission à un état des lieux du service public et de la place médiatique suisse, une année donc après Nobilag. Et en dernière partie d'émission, dans une petite demi-heure, nous recevrons l'ancien bras droit de Didier Burkhalter, Damien Cottier. En tweetant sur son homosexualité à la Saint-Valentin, le PLR Neuchâtelois a su ces dernières semaines passer de l'ombre d'un conseiller fédéral à la lumière des projecteurs médiatiques.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devecq.
Bonsoir à tous. Le 4 mars 2018, soit il y a un an, quasi jour pour jour, le peuple suisse rejetait massivement l'initiative Nobilag à plus de 71% des voix. Un signal clair et net qui a surpris par son ampleur tant le débat qui a précédé a été acharné et passionnel durant des mois. Mais ce plébiscite ne signifie pas pour autant que rien n'a changé ou que rien ne doit changer. Pour preuve, la SSR applique dès cette année des mesures d'économie avec notamment 200 suppressions de postes de travail d'ici 2022 et un budget raboté à hauteur de 100 millions de francs. Et de plus, les médias suisses amorcent une union sacrée pour mieux défendre leurs intérêts. Alors Nobilag, un an après, quel changement dans les médias, dans vos médias? Pour y répondre, on a le plaisir d'accueillir Jean-François Roth. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancien ministre jurassien, bien sûr, mais vous êtes aujourd'hui président de la RTSR, une institution de la SSR qui veille notamment à ce que la RTS respecte son mandat de service public dans les régions de Suisse romande. Et à ce titre, vous êtes aussi membre du conseil d'administration de la SSR en tant que vice-président. Jean-François Roth, merci d'être dans Place publique. Un an après Nobilag, dans quel état d'esprit vous êtes ?
Bah écoutez, Nobilag, ça a été une épreuve et naturellement que les résultats nous ont fait plaisir. Hein. 71% des voix, ça a naturellement montré que les Suisses étaient attachés à un service public audiovisuel fort dans ce pays. C'est un élément de cohésion et c'est réjouissant qu'on arrive à des résultats pareils après quand même des débats particulièrement acrimonieux. Je dois dire qu'une année après, nous avons aussi tiré beaucoup de leçon de cet événement majeur dans la vie de l'audiovisuel en Suisse. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, nous sommes soumis maintenant à un régime d'austérité sans précédent dans l'histoire de la SSR, où avec cette année, un montant de l'ordre de 100 millions de francs est à réaliser sur le budget 2019, donc au titre des économies. Mais ces économies, elles ne se réalisent pas naturellement sans sacrifice. Vous avez parlé du sacrifice d'un certain nombre d'emplois. Nous avons voulu surtout éviter de toucher au programme. Le programme, c'est un peu l'ADN, naturellement, de la SSR. C'est ce qui fait notre richesse.
Donc, on va en parler, Jean-François Roth, oui, de tout cela. Mais pour l'entretien proprement dit, je vous propose qu'on se retrouve après l'entretien que nous allons écouter maintenant avec Gilles Marchand, directeur général de la SSR. On l'a rencontré ce lundi. C'était lors de la première édition de la Conférence internationale des médias de service public à Berne. Et on a demandé à Gilles Marchand ce qu'il retient justement de ce scrutin Nobilag.
C'était pas la fin de quelque chose, c'est le début d'une nouvelle séquence en fait, parce que le formidable débat sur Nobilag ou pendant Nobilag a donné aussi la possibilité à la société suisse de débattre de son service public, de formuler des attentes. Alors le message qui a été envoyé le 4 mars, c'est un message qui consistait à dire: nous avons besoin d'un système médiatique, nous avons besoin d'un service public, mais nous sommes aussi dans l'attente d'une évolution, d'un changement dans un certain nombre de directions, et j'en cite trois rapidement. La première, c'est peut-être un profil encore renforcé qui distingue le service public d'autres opérateurs, notamment internationaux. Le deuxième message était essayer de trouver des coopérations entre vous, entre acteurs médias suisses, pour qu'on puisse réinvestir dans son territoire national. Et puis la dernière chose, c'est sans doute cette idée aussi de l'efficience. Vous êtes un service public important, très décentralisé, vous êtes une grosse machine. Et bien voilà, essayez de faire tout ça en étant le plus efficient possible.
Vous avez insisté, c'est des attentes contradictoires.
Oui, parce que si vous voulez, d'un côté, la population a plébiscité une offre médiatique pleine, entière, en quatre langues, très décentralisée, très fédéraliste, qui couvre tous les domaines de programme. Et en même temps, dans la foulée, on demande à ce même service public de travailler avec 80 millions de moins. Alors, quand on prend, quand on essaie de répondre à cette équation et qu'on essaie de faire des coupes pour rendre l'entreprise un peu plus agile.
Par exemple dans l'immobilier ?
Par exemple dans l'immobilier, par exemple dans l'informatique, par exemple dans la distribution des programmes, par exemple dans les frais administratifs, par exemple dans les investissements technologiques. Bref, tout ça pour essayer de protéger le maximum l'offre de programmes et les emplois spécialisés. Eh bien, quand on fait cela, on se heurte assez vite à des réactions politiques qui nous expliquent que non, finalement, c'est pas une bonne idée de faire ça ici, pas comme ça, pas maintenant, pas là, etc. Donc, au fond, plus fondamentalement, au-delà de cet épisode, mais il y a l'envie de maintenir un service public dans toute sa dimension et en même temps le besoin récurrent qu'il soit plus agile et plus petit dans son fonctionnement et dans ses finances. Alors, au bout d'un moment, ce que je constate, c'est que c'est une attente qui est parfois un peu contradictoire.
L'initiative Nobilag avait une guerre de retard. Par rapport aux enjeux du futur, on le sent, ce n'est plus le service public contre le privé, mais c'est la place médiatique suisse qui doit se fédérer. Là aussi, en une année, on a fait du chemin.
Je partage absolument cette analyse. Je pense que Nobilag a permis, au fond, de relégitimer l'existence d'un système médiatique suisse avec un service public assez conséquent, assez fort dans les différentes régions du pays. Mais les débats à venir, les enjeux à venir sont d'une autre nature. C'est comment arrive-t-on à, au fond, pérenniser ce modèle-là dans un contexte où la concurrence, les acteurs internationaux sont très très présents, avec un transfert complet sur le digital, avec des habitudes de consommation des médias qui évoluent de manière spectaculaire, avec un jeune public qui a de toutes autres attentes que le public plus traditionnel. C'est ça la question, c'est comment arrive-t-on à garantir les valeurs d'un service public dans ce nouveau paysage.
En misant sur le journalisme, mais pas seulement, hein, vous avez dit, la Suisse se raconte aussi avec sa fiction. Est-ce que le nain, vous êtes décrit comme tel, hein, le nain du service public, la SSR, peut assumer toutes ces tâches, être présent partout, fiction, journalisme?
Alors, je le crois. D'abord, peut-être un mot sur l'expression « on est toujours le nain de quelqu'un hein ». Alors, évidemment, qu'en Suisse, nous sommes puissants. Si on se compare aux Allemands, aux Français, aux Anglais, et que sais-je, on est évidemment très petits. Bon, ceci étant dit, je pense qu'un service public, il a une grande caractéristique, c'est qu'il ne doit pas choisir son public. Hein, il doit s'adresser à tout le monde. Pas tout le temps en même temps, mais il doit s'adresser à tout le monde. Partant de ce constat, un service public qui s'adresse à tout le monde doit traiter les différents thèmes, les différents domaines de programme. On ne peut pas considérer qu'on évacue et qu'on enlève de la carte de notre offre de programme tel ou tel secteur ou domaine parce qu'il serait plus éligible ou que sais-je. Bon. Ce qui est important, c'est l'angle, hein, c'est comment on traite les différents domaines. Alors, oui, je crois qu'un service public doit s'engager dans l'investissement culturel, dans la création culturelle, parce que le marché n'arrive pas à le refinancer. Et partant de là, grâce à cet investissement culturel, un service public peut raconter ce qu'est ce pays de manière complémentaire au travail des journalistes. Bien sûr que le journalisme est vraiment au cœur du mandat, bien entendu. Hein, et une information solide, crédible, explicable, expliquée, est tout à fait significative, tout à fait important. Mais pas seulement. Je suis pour ma part convaincu que la fiction est un ingrédient essentiel pour un service public qui doit raconter la diversité du paysage sociologique et culturel dans lequel il exerce. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous essayons de réinvestir dans ce domaine-là.
Vous avez cité encore deux autres enjeux sur lesquels j'aimerais vous entendre. Un enjeu qui est commun à tout le service public, j'allais même dire à tous les médias, c'est d'éviter un décrochage avec la jeune génération. À ce titre, la SSR, que fait-elle? On voit des initiatives très innovantes en Europe. On l'a vu aujourd'hui avec le Danemark, avec aussi l'Écosse. Est-ce que la SSR en fait assez pour reconquérir son jeune public?
Bon, on n'en fait jamais assez, hein. Franchement dit, on pourrait évidemment en faire plus, mais nous avons des expériences analogues à celles de nos collègues. Nous sommes très actifs sur ces nouveaux formats, sur ces nouvelles écritures. Nous avons investi depuis très longtemps les réseaux sociaux, nous sommes très actifs sur Instagram. Nous essayons de développer des petits contenus qui s'adressent spécifiquement à ce jeune public, spécifiquement sur les plateformes digitales. Nous intégrons les youtubeurs dans les programmes de télévision, par exemple. Il y a mille expériences intéressantes dans les différentes régions du pays. Pas plus tard que la semaine dernière, la Suisse italienne, par exemple, a inauguré un nouveau studio pour les youtubeurs qui viennent en fait travailler à la RSI. En Suisse romande, nous embarquons des youtubeurs dans des reportages qui, au fond, racontent avec un regard croisé entre un journaliste classique de télévision et un youtubeur une problématique liée à l'environnement, etc., etc. Donc, il y a des initiatives semblables, mais je pense que c'est un travail constant qui ne peut pas se réduire à cela, qui doit se repenser régulièrement, et je ne crois pas qu'on peut considérer qu'il est terminé. C'est vraiment un never-ended story. Hein.
Dernier enjeu sur lequel j'aimerais vous entendre, la révolution audio. Vous avez annoncé que la prochaine révolution, c'est la révolution audio. Vous pensez à quoi? L'enceinte connectée qui sera chez tout le monde? Est-ce qu'on va passer d'une société du visuel, du toucher, à une société du vocal, de l'audio?
Tout à fait. Moi, je suis convaincu que la révolution de l'audio à la carte sera de même ampleur que celle qu'on a vécue avec la vidéo. Je pense que, si vous voulez, on est en train, pour reprendre une expression un peu sociologique, on est en train de passer de la société du doigt à la société de la voix. Ça veut dire que la relation avec les médias va devenir conversationnelle et que les commandes vocales vont, au fond, guider notre usage des médias. Et donc, un enjeu très, très important va être de faire en sorte que nos programmes, nos formats, nos contenus soient présents et disponibles sur ces nouveaux serveurs qui vont donner accès à toute cette offre à travers la commande vocale. Donc, on parle ici de production originale, évidemment, mais on parle aussi d'une adaptation des formats existants pour qu'on puisse les repérer correctement, qu'ils soient tagués de telle sorte que certains mots-clés permettent de les identifier, que des mécanismes d'intelligence artificielle permettent de les faire monter à la surface de manière rapide pour que celles et ceux qui s'y intéressent les retrouvent. Bref, on est à l'aube de ce changement-là. Je pense que nous sommes entrés dans une nouvelle société médiatique, celle de la conversation.
Place publique. Gabriel Devecq.
Il y a un an, Nobilag échouait dans les urnes. On retrouve Jean-François Roth. Malgré le plébiscite dans les urnes, on a l'impression que la pression reste forte pour la SSR qui doit se réformer. On a parlé de ces mesures d'économie tout à l'heure. Est-ce que c'est compatible avec les attentes de la population en matière de proximité ?
Bon, moi je pense quand même que on peut naturellement réaliser la proximité. On le fait notamment à la SSR à travers notre vaste réseau de correspondants qui naturellement vont continuer de fonctionner et qui font le lien avec le public. Et après cette votation Nobilag, nous avons aussi mis en place un certain nombre de mesures pour être plus proche du public, pour connaître aussi ses attentes. Parce que finalement, le service public, c'est son devoir, mais en même temps son mérite, que de faire en sorte qu'il puisse refléter aussi les avis d'une population très, très diverse. C'est la population, pour ce qui nous concerne, de la Suisse romande, mais aussi des autres régions du pays.
Mais est-ce que votre redéploiement sur la carte de la Suisse, avec des déménagements de rédaction, on pense à la SRF de Berne à Zurich, ou bien encore d'une partie de la production audiovisuelle de Genève à Lausanne, ça a provoqué déjà des levées de boucliers? Est-ce que c'est compatible avec ce mandat de service public?
Bon, c'est un peu ce qu'indiquait tout à l'heure le directeur général, Gilles Marchand. On se trouve quand même face à un rationnement extrêmement conséquent. On est obligé donc de pratiquer ces régimes d'économie. Et d'un autre côté, vous avez des attentes qui finalement vont dans un sens contraire parce que nous avons besoin de rationaliser aussi nos emplacements. Nous devons diminuer nos surfaces, nous devons déplacer un certain nombre de studios pour être plus efficaces. Nous voulons rester fédéralistes, mais nous voulons aussi être finalement des fédéralistes fit, comme on parlait d'agilité, le service public doit être agile. Donc, si vous voulez, on est obligé de naviguer un peu entre des demandes contradictoires, mais je pense que, en tout cas, s'agissant de la SSR, nous sommes encore très, très implantés en Suisse. Nous avons trois lieux de production en Suisse alémanique, nous en avons un au Tessin, ou en Suisse italienne, nous avons en Suisse romanche même, et puis il y en a toujours deux principaux, sans compter les correspondants en Suisse romande. Avec le centre national qui est à Berne, je crois que vraiment on couvre l'ensemble du territoire. Alors naturellement, on ne peut plus faire comme dans l'ancien temps. Je pense qu'il faut changer un certain nombre de paramètres.
Et qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui se félicitent, quelque part, des effets de l'initiative Nobilag, qui a eu le mérite, selon certains, de contraindre la SSR à une sérieuse introspection, on peut le dire, à une remise en question?
Bah, écoutez, je pense que c'était absolument nécessaire. Le service public doit évoluer et c'était sans doute salutaire. C'est un débat qui a lieu dans toute l'Europe. Hein. Tous les pays de l'Union européenne sont touchés par ce débat. On apporte des réponses plus ou moins identiques. Il y a toujours ces questions en arrière-fond de savoir comment on finance le service public, à quelle hauteur il doit être financé, est-ce que ça doit être un financement mixte avec des recettes commerciales aussi, comme c'est le cas pour la SSR. Ces débats ont lieu partout, mais ils sont naturellement très utiles. Et pour la SSR, ce choc, cette épreuve que nous avons vécue à travers nos bilagues était à la fin salutaire. Voyez par exemple la SSR maintenant, qui finalement, ou à qui on reprochait en fait un peu cette sorte de ghettoisation autour du service public, ce monopole autour du service public, c'est aussi beaucoup ouverte dans la discussion aux autres acteurs de la place médiatique suisse. Nous avions déjà des coopérations très importantes avec les radios et les télévisions privées, notamment dans le domaine de la coproduction, de l'échange de contenu, etc. Mais maintenant, donc, des pas supplémentaires ont été franchis. On a aussi donné des signaux de détente.
Notamment sur le web.
Quand je parle des signaux de détente, c'est par exemple le fait que la SSR soit sortie d'Anmera, donc cette régie publicitaire,
ouais.
que nous exploitions avec Ringier et Swisscom, et qui faisait tellement l'objet de critiques s'agissant de la participation de la SSR à cette régie publicitaire. Nous en sommes sortis de l'actionnariat. Nous avons renoncé aussi au texte, nous publions que plus que sur nos sites des vidéos et des audios. Mmh. Et puis ensuite, la SSR s'est montrée aussi très coopérative dans la discussion autour d'une part de la redevance qui pourrait aller à la presse écrite.
Un choc salutaire, hein, donc, pour la paix des ménages. Vous avez évoqué les radios et les télévisions régionales. Il y en a 34 en Suisse, on le rappelle, qui touchent une redevance en Suisse. C'est inutile de dire que pour ces médias, dont les médias de BNJ, Nobilag représentait une réelle menace pour leur existence. Et le rejet de l'initiative a permis à ces médias de continuer, bien sûr, à vivre normalement. Je vous propose, Jean-François Roth, d'écouter le premier bilan de Philippe Zano, président des radios régionales romandes.
Alors directement, je pourrais dire que rien n'a changé, tout simplement parce que ce qui aurait changé la réalité des radios régionales, c'était un oui à Nobilag, puisque les radios régionales dépendent entre 25 et 50% de la redevance. Donc pour les radios, ces radios qui auraient perdu entre un quart et la moitié de leurs revenus, il est clair que l'avenir eût été différent.
Philippe Zano, il n'y a pas de remise en question par rapport au mandat de ces radios ?
Non, il n'y a pas de remise en question, au contraire. Nous voulons, au niveau des radios régionales, qu'une radio régionale dans chaque région ou canton du pays fasse réellement du service public régional. Et ce n'est pas encore complètement le cas, en Suisse allemande en particulier. Et en Suisse romande, sur Lausanne et Genève, les radios ne sont pas soutenues par la redevance. Elles vivent exclusivement de la publicité. Elles se portent bien parce que ces régions-là sont suffisamment riches. Mais nous souhaitons un véritable développement du service public régional, tandis que la SSR serait appelée à un service public national qui laisserait aux radios régionales le terrain régional.
Est-ce qu'on peut dire que du côté roman, surtout, les radios régionales font partie vraiment des grands gagnants de cette votation ?
Alors, il y a beaucoup de gagnants. La SSR, évidemment, a gagné, mais elle doit s'adapter aujourd'hui parce que la pression reste importante. Sur les radios régionales, je dirais qu'il n'y a pas de véritable pression, si ce n'est que le marché publicitaire n'est pas aussi puissant l'année passée qu'en 2017. Donc, il faut veiller à ce que les revenus des radios régionales restent suffisamment élevés. Elles ont bénéficié cette année d'une augmentation de la quote-part de redevance en passant de 5 à 6 %. Mais il est évident qu'il faut continuer à faire attention. Nous avons quelques idées. On parle de 3 fois 100 millions. 100 millions pour la presse, 100 millions pour les télévisions régionales, 100 millions pour les radios régionales. Et je crois que c'est absolument réaliste et que notre pays peut investir dans ces médias.
Alors, rien n'a changé pour les radios régionales, mais tout a changé dans le dialogue entre médias en Suisse.
Alors je dirais que c'est la grande leçon, ce n'est pas une conséquence directe qui touche la vie de chacune des radios régionales, mais ça touche la vie de l'ensemble des médias en Suisse romande. Dans le cadre de la votation Nobilag, tous les médias étaient contre cette initiative, y compris la presse avec les médias suisses, la SSR et les radios et télévisions régionales, y compris celles qui n'ont pas de redevance. Et tout cela se concrétise, nous sommes coordonnés par exemple par rapport à la loi sur les médias électroniques, et puis nous avons créé le Forum des médias romands, qui est une plateforme d'échange et de mouvement où une dynamique doit s'inscrire de manière à ce que des innovations émanent des médias en Suisse romande. Et la première réunion de ce forum aura lieu le 10 avril prochain, c'est-à-dire une année et deux mois après la votation.
On aurait pu craindre que cette campagne très virulente laisse des traces, hein, creuse un peu plus le fossé entre médias de service public et puis médias privés. Or, il n'en est rien, à vous entendre. Les médias sont sont mieux fédérés.
Alors oui, et puis très bonne nouvelle, elle date de ce dimanche dans les grands médias en Suisse alémanique. Les grands éditeurs commencent à ouvrir les yeux. Jusqu'à présent, ils n'ont rien voulu entendre par rapport à l'aide, une aide plus conséquente pour la presse, alors que cette aide est demandée par les petits médias, ceux à caractère cantonal. Et aujourd'hui, on sent que tout le monde est maintenant sur la même ligne, sur la même voie, pour faire en sorte que les médias dans ce pays puissent vivre, voire survivre. C'est complètement essentiel, parce que ce pays dépend aussi d'une culture politique qui est alimentée par les médias. Et si les médias ne peuvent plus jouer ce rôle, parce qu'il n'y a plus de journalistes, parce que les revenus sont insuffisants et qu'on ne fait que diffuser de la musique, par exemple, sur les radios, eh bien, la vie démocratique de ce pays serait extrêmement déficitaire. Il faut continuer dans cette voie-là.
Les médias commencent à parler d'une même voix, tandis qu'au niveau politique, on a l'impression que tout reste à faire.
Complètement. On entend à Berne et à Bienne, à l'Office fédéral de la communication, qu'un soutien à la presse n'est pas possible, qu'un soutien aux médias qui ne bénéficient pas aujourd'hui de redevances n'est pas possible, qu'il n'y a pas de base constitutionnelle, mais absolument personne ne travaille là-dessus. On nous dit juste que ce n'est pas possible et qu'il faudra des années pour changer la constitution, changer la loi. Or, la presse, c'est aujourd'hui qu'elle a besoin d'un soutien plus évident. Et pour les radios et télévisions régionales, je crois qu'il faudra assez rapidement aussi regarder à nouveau les comptes, parce que la pression publicitaire des grands GAFA américains est énorme, et dans les régions aussi, dans le Jura, Jura-Bernois, Neuchâtel, on a de plus en plus de publicité qui part sur Google, et Google ne nous rend rien, au contraire des médias régionaux qui font vivre la vie dans une région.
Philippe Zano, président des radios régionales romandes, Jean-François Roth, une réaction pour conclure. On l'entend, au niveau politique, on est un peu dans une impasse. Le projet de nouvelle loi sur les médias électroniques est au point mort. Dans quel camp est la balle? Qui peut débloquer la situation? Est-ce que c'est, par exemple, la nouvelle conseillère fédérale Simonetta Sommaruga?
Bon, ce que dit Zano est parfaitement pertinent. En fait, c'est la place médiatique suisse dont on parle ici, et une place médiatique suisse qui est en face à des géants. Il a parlé des GAFA, et naturellement que c'est très préoccupant aussi pour l'avenir de cette place médiatique. Alors, je pense que naturellement, il faut aussi un encadrement législatif qui soit adapté aux défis de ce temps. C'était aussi l'ambition de cette nouvelle loi sur les médias électroniques. On est au point mort parce que la consultation, semble-t-il, a donné des réactions assez peu favorables à ce texte, qui devrait sans doute, en tout cas à mon goût, être plus innovateur. Est-ce qu'il faut reprendre ce projet? Moi, je pense que la nouvelle conseillère fédérale, qui est issue de la social-démocratie suisse, a sans doute le service public chevillé au corps. Donc, on peut s'attendre à ce que le service public soit aussi bien défendu au Conseil fédéral. Naturellement, quand on a dit cela, il faut après aussi voir les actes qui vont s'en suivre, et en particulier comment on va réagir à la suite de cette consultation, et quel cadre constitutionnel, légal, on va proposer pour donner la possibilité à cette place médiatique suisse de se mouvoir dans les prochaines années.
Merci Jean-François Roth d'être venu dans Place Publique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On le rappelle, vous êtes président de la RTSR et vice-président de la SSR. Merci d'avoir fait le bilan un an après Bilag. Bonne suite de soirée.
Merci.
Place Publique.
Tout est parti d'un tweet. C'était le 14 février dernier, jour de la Saint-Valentin. Le PLR neuchâtelois Damien Cottier a choisi de révéler Urbi et Orbi son homosexualité. Cet ancien proche collaborateur de Didier Burkhalter a notamment écrit « J'aime et partage ma vie depuis 12 ans avec Victor, le soleil de ma vie, c'est dit ». Ce coming out de Damien Cottier n'est pas passé inaperçu dans la presse et les médias en Suisse ces dernières semaines. Arc Info, Le Matin Dimanche, le Tagus Anzeiger, l'émission Mise au Point sur la RTS, ou tout récemment le magazine Schweizer Illustriert. Et ils se sont tous emparés du sujet, peut-être que j'en oublie. Et maintenant, nous ce soir, sur les radios de l'Arc Jurassien. Donc une bonne opération pour celui qui ambitionne d'être candidat au Conseil National sous les couleurs du PLR neuchâtelois, et qui réalise ainsi au passage un passage remarqué de l'ombre à la lumière. Bonsoir Damien Cottier.
Bonsoir.
Alors vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez 43 ans, vous travaillez actuellement à Genève comme chef de section des affaires humanitaires à la mission permanente de la Suisse auprès des Nations Unies. Alors depuis 3 semaines, vous êtes sous le feu des projecteurs hein, grâce à ce coming out. Comment expliquer aujourd'hui qu'une annonce comme celle-ci ait autant d'impact ? Est-ce que ça ne devrait pas être considéré comme normal ?
Oui, je dois avouer que l'impact médiatique m'a surpris, l'ampleur. Je pensais qu'il y aurait un intérêt, mais pas à ce point-là. Moi, j'ai fait un tweet. J'ai fait aucun contact avec les médias, mais de nombreux médias m'ont téléphoné. Vous l'avez fait aussi pour discuter de cela. Je pense que c'est dû au fait que, pour une raison que je comprends pas bien, il y a peu de politiciens qui ont fait ce geste en Suisse romande, alors que c'est quelque chose de relativement banal en Suisse alémanique. Et cette différence a un petit peu interpellé. Et puis, comme c'est peu habituel, je ne suis pas le premier, mais je suis un des premiers en Suisse romande à l'avoir simplement dit publiquement, eh bien, peut-être que ça surprend un tout petit peu. Je crois que c'est aussi un geste politique, et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu un intérêt, parce qu'il y a un débat actuel sur le mariage pour tous. Je l'ai fait le jour où la commission des affaires juridiques du National a pris sa décision et a lancé la consultation sur le projet. Donc il y a une dimension politique à cette annonce. C'est pour ça que je l'ai fait ce jour-là.
Bon, ça fait avancer la cause, mais entre nous, c'est aussi un habile coup de pub, un beau coup de com' pour lancer une campagne pour les élections fédérales.
Écoutez, très franchement, je ne l'ai pas pensé comme ça, je ne l'ai pas vécu comme ça. Moi, ce que je voulais simplement, c'était que les choses soient claires. Parce que ça fait des années que lorsque les gens que je croise, que je connais, ou lorsque j'ai des nouvelles connaissances, des nouveaux collègues, lorsqu'on me dit, est-ce que tu es marié, est-ce que tu as des enfants, je répondais simplement, non, je vis avec un partenaire. Ce qui fait qu'il y a des personnes qui étaient au courant parce qu'on en avait parlé, il y a d'autres personnes que je connaissais d'avant qui ne m'avaient pas posé la question, qui ne le savaient pas. Et il n'y avait pas de raison de le faire de manière plus ouverte ces dernières années, puisque comme vous le disiez, j'étais dans l'ombre d'un conseiller fédéral. J'avais par le passé été moi-même une personnalité politique ici à Neuchâtel. Là, ce n'était plus le cas, donc il n'y avait pas de raison de le faire sur la place publique. J'ai trouvé correct au moment du début de cette campagne, au moment où je reviens un peu dans la lumière publique, de le mettre sur la table. Et comme j'ai dit dans le tweet, c'est dit, ça veut aussi dire, après on parle d'autre chose, parce que je ne veux pas parler que de ça.
Alors parlons de votre comeback en politique active, parce que c'est ça que ça signifie. En quoi votre expérience dans l'ombre de Burkhalter, à côtoyer les plus grands à travers le globe, peut faire de vous un bon parlementaire neuchâtelois ?
Écoutez, si je serais potentiellement un bon parlementaire, c'est d'abord à l'Assemblée Générale de mon parti de le décider.
Dans le 16 15 mars.
Jours, le 16 mars. Et puis, un petit peu moins, dans 10 jours. Et puis si je devais être choisi et figurer sur les listes, ensuite à la population neuchâteloise. Moi, ce que je fais, c'est simplement, c'est une offre. Je mets des projets sur la table, je mets une personnalité avec une expérience de 15 ans de politique cantonale et communale à Neuchâtel entre 1995 et début des années... pratiquement 2010, et puis ensuite une dizaine d'années d'expérience politique fédérale et de politique internationale, puisque j'étais avec Didier Burkhalter au DFAE, et il me semble que ça complète mon profil. Donc ce que je peux offrir, c'est cette expérience, et puis j'ai la chance d'avoir un bon réseau à Berne, puisque j'y ai travaillé 10 ans, avec le Parlement, dans l'administration fédérale, auprès du Conseil fédéral. Donc ça, c'est quelque chose qui est utile, c'est quelque chose qui, pour tout nouvel élu, c'est quelque chose qui se construit. Tout le monde peut le faire, mais ça prend un certain temps, et moi j'ai la chance d'avoir ce réseau qui existe déjà.
Mais est-ce que ces fonctions fédérales et aussi internationales ne vous ont pas éloigné un peu des préoccupations directement neuchâteloises, voire même d'un réseau neuchâtelois de celles et ceux même qui vont devoir voter ou pas pour vous ?
Écoutez, on verra bien. Moi, j'ai pas perdu le lien avec le canton de Neuchâtel. Pour prendre une image peut-être du cyclisme, j'ai un peu plus levé la tête du guidon, mais le pneu n'a pas perdu le contact avec la route. C'est-à-dire que j'ai toujours continué d'habiter dans le canton de Neuchâtel quand je travaillais à Berne, et maintenant, depuis une année où je travaille à Genève, je continue d'y être domicilié, j'y suis très régulièrement, et j'ai continué de m'intéresser aux affaires neuchâteloises. Alors c'est clair qu'on s'y intéresse de manière moins immédiatement très proche que quand j'étais par exemple député au Grand Conseil pendant ces 11 années-là, on est directement dans les dossiers. Là, je les voyais d'un petit peu plus loin. Mais j'ai continué de m'y intéresser parce que c'est mon canton, parce que je l'aime, parce que ça m'intéresse. Mais aussi par mes fonctions. Je travaillais pour un conseiller fédéral neuchâtelois qui s'intéressait aux affaires de son canton. Lorsqu'un dossier qui concernait directement le canton de Neuchâtel passait au Conseil fédéral ou passait par le Conseil fédéral pour aller au Parlement, on y jetait un coup d'œil. C'était ma tâche de le faire, puisque j'étais un de ses deux collaborateurs personnels et celui qui venait du canton de Neuchâtel. Et puis, vous vous souviendrez probablement qu'on a fait énormément de visites dans le canton de Neuchâtel avec des ministres ou des chefs d'État étrangers, avec le Conseil fédéral, en cours d'école, avec des diplomates, ambassadeurs étrangers en Suisse. Donc on est revenu souvent, et c'était moi qui étais chargé des contacts avec les autorités cantonales ou communales. Donc ce contact, je l'ai soigné, je l'ai gardé. Ça permettait peut-être de prendre un tout petit peu de distance par rapport aux choses. On capte peut-être moins les querelles de clochers, et on voit peut-être plus les potentiels et les risques.
Fidélité et recul, on pourrait résumer tout cela par deux mots. Quand même, vous n'êtes peut-être pas aussi souvent, de par votre emploi du temps à Genève, vous n'êtes pas aussi souvent en terre neuchâteloise que vos coulissiers. Ça ne peut pas vous porter préjudice.
C'est possible.
Être en prise directe, vraiment, avec Neuchâtel.
C'est possible. Encore une fois, ce sera à l'électorat de juger si c'est une qualité ou un défaut d'avoir peut-être d'être un tout petit peu moins là ces dernières années. Je l'étais énormément les années précédentes, encore une fois, quand j'étais au Grand Conseil en particulier. Maintenant, je ne travaille pas dans le canton de Neuchâtel, donc il y a peut-être un tout petit peu de distance physique, je dirais. Il n'y a aucune distance dans le cœur.
Pas de décalage.
Et puis si c'est un désavantage, eh bien c'est un désavantage. À la fin, les électeurs jugeront. Moi, j'ai pas de décalage, genre, aucun décalage.
On aura l'occasion de détailler durant cette campagne pour les fédérales si vous êtes choisi par votre parti, votre programme. Néanmoins, on peut en dire quelques mots. Vous placez l'Europe au centre de vos préoccupations, mais aussi l'environnement. Est-ce que vous craignez pas, de façon générale, avec votre ligne, on va dire en héritage de celle de Didier Burkhalter, d'être un peu à la marge de votre parti? On a l'impression que c'est plutôt la frange libérale qui a le vent en poupe.
Non, je crois vraiment pas. J'ai toujours refusé qu'on me colle une étiquette et on a toujours eu de la peine de le faire. Certaines fois, dans mon parti, on m'a dit « Ah, t'es plutôt de cette frange, un peu plus de ce côté-ci, un peu plus de ce côté-là. » Je suis libre. Je fais mon opinion en fonction des objets. Il y a certains thèmes sur lesquels je suis peut-être un peu plus centriste, il y en a d'autres sur lesquels je suis parfaitement libéral. Je fais totalement partie de ce grand mouvement qui s'appelle le PLR. Je m'y sens totalement à l'aise. Après, les gens jugent sur le programme. Vous savez, moi, je fais pas de la politique pour savoir si je suis plus ceci ou plus cela. Je fais de la politique sur des projets. Je fais de la politique sur des valeurs. Et vous l'avez dit, les projets, moi, je les ai résumés à trois pour ces élections fédérales. C'est l'emploi, c'est l'environnement et c'est l'Europe. Ça fait trois E. C'est facile à retenir. Mais surtout, c'est trois thèmes qui sont absolument fondamentaux pour préparer l'avenir de ce canton. C'est des choses qui se décident à Berne et qui ont un impact immédiat sur le canton de Neuchâtel.
On a quand même l'impression que dans le terreau neuchâtelois, notamment du PLR, c'est plutôt des voix comme celle de Philippe Bauer qui prennent de l'importance. On l'a encore vu hier à l'Assemblée Générale. Philippe Bauer, c'est un peu l'homme qui gagne en ce moment. Est-ce que vous craignez pas justement d'être un tout petit peu décalé par rapport au mainstream du PLR neuchâtelois?
Non, absolument pas. Je me sens parfaitement à l'aise dans ce mouvement. J'y suis régulièrement. Je m'y sens bien. Philippe Bauer est le conseiller national sortant. Il sera le candidat tête de liste pour le Conseil des États. C'est une évidence. C'est donc normal qu'il ait plus de visibilité. Mais cela dit, chacun a sa place dans le PLR neuchâtelois, même s'il y a des petites nuances. Écoutez, sur 98% des sujets, je suis probablement d'accord avec Philippe Bauer. Et puis, sur les 2% restants, on discute. C'est ça, la démocratie. Et ces différences ont toujours été très bien acceptées au sein du PLR. C'est aussi pour ça que je m'y sens bien et que tout le monde s'y sent bien. Puis des fois, c'est peut-être lui qui a un petit peu en décalage, ou d'autres.
Merci infiniment, Damien Cottier, d'être venu dans Place Publique pour parler de ce comeback en politique qui rimait avec un coming out. Et c'est tout pour Place Publique. Merci à Yannick Frossard, Sandra Jelin et François Comte qui ont réalisé ou collaboré à cette émission. Vous la retrouvez tout à l'heure sur nos pages web RJB, RTN et RFJ.ch ou sur nos applications.
Place Publique.